La littérature n'est pas seulement faite d'énoncés, elle est faite aussi de visibilité capturée par les énoncés. Comment marquer cette différence dans le langage entre les énoncés et les visibilités capturées? Je crois fort à la différence de nature dans le langage entre les énoncés et les descriptions. Les descriptions ne sont pas des énoncés, ce sont des visibilités. J'ai pour moi de très grands logiciens, par exemple Russell, qui, dans son livre fondateur de la logique moderne, Les principes des mathématiques, marquait déjà la différence de nature entre les propositions et les descriptions. Et d'une certaine manière, la littérature moderne a beaucoup développé la différence de nature aussi, entre, d'une toute autre manière que chez Russell, par exemple le nouveau roman, je crois, est tout entier fondé sur une certaine dualité entre les énoncés et les descriptions. Chez Foucault aussi. Il y a chez lui des énoncés philosophiques, mais pourquoi est-ce que, d'un bout à l'autre, son œuvre est comme entrecoupée de descriptions? Soit description de tableaux, soit description de choses que Foucault traite comme si c'était des tableaux. Par exemple, quand il décrit la prison, il la décrit comme si c'était un tableau. Il y a une fonction propre de la description chez Foucault qui se réduit pas à l'énoncé. Or, il y a un auteur, il y a parmi les grands génies de notre littérature, de la littérature moderne, il y a un auteur, il me semble, qui a poussé ça. Si vous voulez, le plus grand luministe. De même qu'il y a des luministes en peinture, de grands luministes en peinture, par exemple Delaunay, c'est pas un coloriste, c'est pas un dessinateur, c'est un luministe. Il y a de grands luministes en littérature. Je crois que le plus grand luministe de la littérature moderne, c'est Faulkner. Or, si j'essaie de juste indiquer l'exemple Faulkner dans ce schéma qu'on vient de dégager, qu'est-ce que ça donnerait, est-ce que ça peut... Il faut qu'une méthode ait beaucoup d'applications et beaucoup de fécondité. De quoi il s'agit chez Faulkner? D'abord quelque chose d'effarant, à savoir tous les sens sont convoqués, tous les sens, y compris les sens les plus abjects, mais ils sont convoqués par quoi? Par la lumière et les variations de lumière suivant les heures et les saisons. Les descriptions de Faulkner, si on me disait qu'est-ce que c'est que l'objet fondamental de la description, c'est-à-dire ce qui ne peut être que décrit. N'importe quoi peut être décrit, mais ça peut être aussi autre chose que décrit. Mais qu'est-ce qui ne peut être que décrit? La lumière. Les états de la lumière. C'est précisément parce qu'ils ne peuvent être que décrits qu'ils sont tellement difficiles à décrire. Ceux qui connaissent Faulkner savent bien que, à ma connaissance, il n'y a pas dans l'histoire de la littérature mondiale un autre auteur comme lui pour savoir décrire, parfois en plusieurs pages, une nuance de lumière qui tombe sur un ensemble de choses. Et les choses sont vues. Mais la visibilité, ce n'est pas les choses qui sont vues. Car les choses qui sont vues, elles sont aussi entendues, flairées, etc. Tous les sens sont convoqués chez Faulkner, évidemment. Les choses sont vues, flairées, maniées, tripotées, etc. Tous les sens s'exercent avec une violence. Mais avec d'autant plus de violence que tous ensemble, ils sont tirés à la lumière. Lumière d'août. Ils sont tirés à la lumière d'août. ils sont tirés à la lumière de 5 heures du soir. Alors la visibilité surgit, alors les choses s'ouvrent et la visibilité surgit. Il n'y a pas d'auteur de lumière comme Faulkner. Et c'est peut-être lié au sud des USA, puisque c'est le lieu de Faulkner, je précise pour ceux qui ne connaissent pas Faulkner. C'est peut-être lié à la lumière du sud, la lumière d'août dans un état du sud. Peut-être. Qu'est-ce qui fait qu'il a ce génie de la lumière? Bon, qu'est-ce qui fait? Faulkner, c'est celui qui vraiment fait surgir des choses multisensorielles, non pas le prima d'un sens qui serait la vue, mais la pure visibilité. La visibilité dans son espèce de cruauté, de crudité absolue. Et c'est cet être-lumière qui se rassemble dans chaque roman de Faulkner, si bien que le corpus faulknerien, ce serait le « il y a de la lumière » telle qu'elle tombe sur l'ensemble des romans de Faulkner ou sur tel roman, ou sur telle page de roman. Et parallèlement, il y a les énoncés faulkneriens. Et ces énoncés faulkneriens, chacun sait qu'ils surgissent en quoi. Et bien, en Faulkner a comme un second pôle de son génie. Casser les phrases, les propositions, les mots, en les rapportant à un tout du langage qui va les brasser. Et les énoncés, ce sera quoi? Les énoncés faulkneriens, ils seront saisis au point où un même nom renvoie à deux personnes différentes, ou bien où une même personne a deux noms différents. Et c'est les généalogies là, de ces familles du Sud, de Faulkner. Et si j'ajoute pour tout rendre cohérent, mais il n'y a pas besoin. Et qu'est-ce qui se joue dans les deux corpus, le corpus de phrases et le corpus physique? Qu'est-ce qui se joue au niveau des énoncés faulkneriens, comme au niveau des visibilités faulkneriennes? La réponse est très simple, ce qui se joue. C'est d'abominables rapports de pouvoir. À savoir, la décadence du Sud, la dégénérescence de ces familles anciennement puissantes. Tous ceux qui ont lu un peu de Faulkner savent ça. Des foyers qui sont à la fois des foyers de pouvoir rongeants et rongés. Tout ça, l'ensemble de ces énoncés rapportés au foyer de pouvoir qui s'agite en eux, ça donne quoi? Ça donne, là, je tombe dans ce qui est le plus connu chez Faulkner, ça donne la fameuse histoire pleine de bruit et de fureur racontée par un idiot. L'histoire racontée par un idiot, c'est le « on parle là ». Il faudrait juste ajouter qu'elle n'est pas seulement racontée par un idiot, elle est vue par un débile. Et le vu par un débile, c'est la visibilité. Comme raconté par un idiot, c'est l'énonçabilité. L'énoncé n'a jamais comme sujet qu'un idiot, c'est-à-dire une position dans le « on » de « on parle ». La visibilité n'a jamais comme sujet qu'un « on » dans « on voit », c'est-à-dire une place dans l'être-lumière. Alors très bien, bon. Dès lors, on est d'accord, on a tiré tout ce qu'on pouvait du parallélisme. Maintenant, il faut revenir là. Admettons même qu'on ait une vague idée maintenant de ce que c'est qu'une visibilité, par distinction d'avec une chose vue. Raison de plus pour revenir. Maintenant, on peut plus détourner, on peut plus. Il s'agit de dire qu'est-ce que c'est qu'un énoncé, en quoi un énoncé n'est ni un mot, ni une phrase, ni une proposition. Il faut essayer. Je veux dire, on a une vague idée, en effet. au point d'en est, on a une vague idée. Les énoncés, en effet, ne sont pas des phrases, des propositions. Mais en quoi ? Faut pas lâcher tant qu'on n'aura pas de réponse possible. Alors, on va chercher. Mais comment ça va? Vous rigolez. Je vous demande pas ça par souci de votre santé. Je vous demande ça parce que on va se reposer hein, un petit peu. Mais 10 minutes, hein, pas plus de 10 minutes. Quelle heure il est? Est-ce qu'il y a des questions qui me permettraient de ne pas avancer? Pas de questions? Une petite question? Pas de questions? Oui, je sais. Alors, une petite question.
Vous avez fait une allusion à la lumière chez les dégâts?
Ah oui, ça viendra après. Hein. Un parallèle avec Heidegger, parce que oui, on ne va pas maintenant. Hein. Oui. Une autre question. Pas d'autres questions. Bon, et bien alors, allons-y, il faut bien avancer, puisque il n'y a pas de questions. Eh bien, écoutez, voilà. Je crois, c'est du domaine du je crois, alors vous vous débrouillez. Là, je crois quand même qu'on peut essayer d'assigner la différence entre les énoncés d'une part et d'autre part le groupe mot-phrase-proposition à 4 niveaux. Quand on aura vu les 4, on n'en pourra plus, mais on ne les verra pas aujourd'hui. Hein. À 4. Voilà. Et ben voilà, c'est fini. Donc, premier niveau. Je cherche la moindre occasion de me faire. Non, pas de question. Premier niveau. Il n'y a pas que la logique qui s'occupe des propositions. D'une certaine manière, il faut bien les numéroter à mes niveaux, parce que sinon, d'une certaine manière, la linguistique s'occupe de propositions. Qu'est-ce que c'est qu'une proposition au sens linguistique? Je dirais de la linguistique qu'elle extrait des propositions à partir des phrases. Mais qu'est-ce que je veux dire? Oh, je veux dire une chose très très simple, quoi. Je veux dire, une phrase, c'est ce que les linguistes appellent, supposons, de la parole. Parole orale ou écrite. Or, la parole, vous sentez tout de suite que je me réfère à la distinction classique linguistique, langue-parole. La parole, c'est toujours un mélange de faits. C'est une bouillie, la parole. C'est plein de trucs, la parole. Un mélange de faits. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ça mélange quoi? Ça mélange des systèmes très différents. Hein? Quand vous parlez, vous mélangez des systèmes très différents. Qu'est-ce que ça veut dire un système? Les linguistes essaient et c'est leur première tâche scientifique, disent-ils, distinguer des systèmes de langue dans la parole. Un système se définit comment ? De deux manières. Son homogénéité d'ensemble, c'est-à-dire homogénéité des règles de formation, son homogénéité d'ensemble et la constance de certains éléments. Éléments constants, homogénéité de l'ensemble. C'est abstrait. Exemple. L'américain parlait. Exemple que j'invoque avec d'autant plus de bonne foi que je ne le parle pas. L'américain parlait. Lui correspond plusieurs systèmes linguistiques. Prenons-en deux. Ce que je dis est perpétuellement dit par les linguistes, mais je précise, est maintenu par Chomsky. Bon, si vous voulez, de Saussure à Chomsky, les linguistes nous disent le travail scientifique sur une langue suppose qu'on est d'abord dégagé des systèmes homogènes et cohérents qui font l'objet de l'étude scientifique. C'est pas la parole qui peut être étudiée scientifiquement. Ou du moins, elle ne peut pas l'être immédiatement, elle ne peut l'être que par après. Ce qui compte d'abord, c'est la détermination de systèmes homogènes et cohérents. Exemple, l'américain parlé, je retiens deux systèmes. Là, on l'appellera l'américain standard, l'autre on l'appellera le black English. La langue des noirs américains. Qu'il y ait des chevauchements, des empiétements, c'est pas la question. On peut définir deux systèmes. Par exemple, les règles du participe passé ne sont pas les mêmes. Quand je dis le linguiste extrait par des phrases et il en extrait des propositions, je veux dire il part d'un mélange de faits, la parole, et il extrait des systèmes dont chacun est homogène et cohérent. Un système américain standard, un système black English. De retenir que deux systèmes. Ce sont ces systèmes, et seulement ces systèmes, qui font l'objet d'une étude scientifique. Recherche des constantes et des règles d'homogénéité. C'est clair ? Bon. C'est la première chose qui m'importe. Je dirais que une proposition au sens linguistique, c'est ce qui fait partie de l'un ou l'autre des systèmes. Vous voyez que la proposition linguistique n'est pas tout à fait la même que la phrase. La phrase mélange les systèmes. La proposition linguistique appartient à un système définissable par l'homogénéité de ses règles et la constance de ses éléments. Ça me suffit pour le moment. J'en suis toujours à mon premier plan. Ça me suffit pour le moment. J'ai l'air de penser à tout à fait autre chose. Je vous disais, un livre fondamental sur les énoncés de sexualité, c'est le grand classique de Kraft et Bing, Psychopathia Sexualis. Ceux qui ne l'ont pas lu, je ne saurais trop vous en recommander la lecture, puisque vous apprendrez là le secret de toutes les perversions. Y compris une perversion fantastique, hélas, tombée dans l'oubli, à savoir la perversion des coupeurs de nattes. Et qui à un moment ont eu un grand succès dans le métro. C'était des individus ignobles qui se glissaient derrière des jeunes filles aux belles nattes et coupaient les nattes de ces jeunes filles. Et je dis ça parce que ça avait été, quand j'ai lu moi, Krafft Ebing, dans l'enthousiasme et en même temps l'horreur morale de la culture, j'avais été stupéfait de ceci, que Krafft Ebing a tout vu, tout connu. Il est expert des tribunaux tout seul et il garde un sang-froid imperturbable devant lui. Les choses les plus immondes, les cas de sadisme, mais qui vous font frémir, quoi, des cas de sadisme, ou bien de douleur masochiste, tout ça. On peut à peine lire ça tellement on a c'est insupportable, ou bien les gens qui vont déterrer les cadavres, tout ça, des abominations, des horreurs. Donc, il a tout vu. Et puis, il y a un moment où il craque. Ça, c'est prodigieux. Le psychiatre s'écroule. Comme quand on ne peut jamais dire « je peux tout supporter ». Lui, il a tout supporté. Les éventrations, les extractions de viscères, tout ça, tout y passe, il est parfait. On dirait qu'il dit des choses insignifiantes. Ça va de soi, tout ça, pour lui. Puis, tout d'un coup, il perd les pédales. Il parle des coupeurs de nattes. On ne comprend plus du tout, car Krafft Ebing se met à dire de tels individus, je cite par cœur, c'est resté dans mon cœur à jamais, de tels individus sont tellement dangereux qu'il faut à tout prix les soustraire et leur retirer la liberté. Pour les sadiques qui tuent, pour le sergent Bertrand qui déterre les cadavres, il n'a eu que des mots froids d'homme de science. Pour la petite fille et ses nattes, il s'écroule. Il dit c'est odieux. C'est très curieux. Hein? Très très curieux. Ça, c'est les seuils des gens. Les gens, ils ont toujours des seuils. Vous verrez un sadique terrible, tout d'un coup, un masochiste, et puis il se retourne un petit ongle, il s'écroule. Alors que la veille, il se faisait faire des brûlures abominables. Il se trouve que ça, il ne le supportait pas. Je connais quelqu'un. Tout ça, c'est un cours de morale, je le transforme en cours. Je connais quelqu'un, et je comprends très bien ça, qui supporte, et en vertu de son métier même, il est forcé, il supporte les morts, le spectacle des morts, de la mort, dans les conditions les plus tristes, les plus terribles. Il y a une chose qu'il ne supporte pas, c'est l'image d'un bateau qui coule. Et je ne sais pas si vous avez vu déjà des images de bateaux qui coulent. On voit ça au cinéma souvent. Et on croit comprendre, parce qu'il y a quelque chose de tellement pathétique, c'est à la limite du supportable, la manière dont un bateau coule. C'est comme si là c'était une mort plus terrible encore que toute mort d'homme. C'est une espèce d'effondrement, mais d'effondrement. Alors là, il craque. Eh ben, le grand Krafft Ebing craquait à la seule idée qu'on puisse couper les nattes d'une jeune fille. Pourtant, ça ne fait pas très mal. Bon, mais enfin, c'est ce qu'on appelle une digression, ce que j'ai fait là. Alors, le grand Krafft Ebing, je vous l'ai déjà dit, qu'est-ce que c'est qu'un énoncé, Krafft Ebing? C'est très curieux. C'est un énoncé à cheval sur deux langues. Il écrit en allemand. Et dans sa phrase allemande, dès que ce qu'il dit offense la pudeur, il le dit en latin. Et en italique. Si bien que vous ne pouvez pas lire Krafft Ebing si vous n'avez pas fait de latin. Du moins quelque chose vous échappe. Bien, je dirais typiquement, les énoncés de Krafft Ebing, et là je pèse, je surveille bien mes mots, Les énoncés de Kraft et Bing sont à cheval sur deux systèmes. Je ne dis pas que Kraft et Bing parlent tantôt allemand, tantôt latin. Je ne parle pas d'un mélange de faits. Je parle d'une organisation de droit. Les énoncés de Kraft et Bing ne cessent de passer du système allemand au système latin et du système latin au système allemand. Vous me direz, c'est un cas un peu spécial. Continuons. Je crois que Foucault est assez proche, et inversement, car je ne suis même pas sûr que Foucault connaissait cet auteur, d'un linguiste américain, spécialiste de ce qu'on de ce qu'il appelle lui-même sociolinguistique, qui s'appelle Lebov. Je crois que ça se prononce comme ça, je ne suis pas sûr. L-A-B-O-V. 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 Lebov. Ça va, Lebov? Oui. C'est ça, non? Lebov, hein? Lebov fait des études qui me paraissent très très intéressantes. Je dis, vous comprendrez pourquoi ça me paraît proche de Foucault, le chef de Lebov. Il fait des études sur, par exemple, un petit noir américain qui explique quelque chose. Et Lebov se demande, par exemple, combien de fois sur un cours, sur une courte durée, par exemple 2 minutes, il explique un jeu très compliqué entre gamins noirs à Harlem. Et il se demande en combien de fois en 2 minutes, le gosse passe du Black English à l'américain standard et inversement. Avec, comme dit Lebov, et c'est très intéressant, ça me semble, avec de larges plages d'indiscernabilité, c'est-à-dire des segments de phrases qu'on peut aussi bien rapporter au Black English qu'à l'américain standard. Donc c'est tantôt. On a envie plutôt tantôt de les rapporter au Black English, tantôt on a envie de les rapporter à l'américain standard. En d'autres termes, le petit noir ne cesse de déraper. C'est-à-dire de passer d'un système à l'autre. Il fait une transversale de système. Ces énoncés tracent une transversale de système. Ils ne cessent de passer d'un système hétérogène à un autre. Si vous me suivez, vous devez sentir qu'on tient quelque chose. Je m'en tiens à ces deux exemples, Kraft et Bing et Lebov. Ces deux exemples très très différents. Mais pensez, qu'est-ce que vous faites quand vous parlez? Vous ne cessez pas de tracer des transversales entre systèmes. Vous comprenez quand même, c'est par là que la linguistique, c'est rien s'il n'y a pas une pragmatique. Je veux dire, même, je prends mon exemple misérable. Là, je fais court. Bon. J'en ai marre. Bon. Je me mets à raconter un truc sur les nattes de... C'est pas le même système que ce que je disais avant. Je fais une transversale, la manière de gagner du temps. Bon. Ou bien j'ai un haut souci pédagogique qui fait, je me dis, ils sont fatigués, ils ne peuvent plus bien suivre. Alors, j'essaie de me faire spirituel, rien du tout, mais ça n'empêche pas. Alors que je me réclamais tout à l'heure d'un système homogène philosophique, là que je tombe dans un système des astuces, vaut ce que ça vaut, j'ai fait une transversale. Bien. On n'arrête pas dans la vie. On n'arrête pas. Bon, alors, qu'est-ce que nous dit Chomsky ? Chomsky nous dit. Ah oui, mais ça tout le monde le sait, il dit Chomsky. Il dit tout le monde le sait, c'est la situation de fait. Mais jamais une science ne s'est constituée sur le fait. Une science doit découper dans les faits ses systèmes. La science ne commence, bien entendu, quand vous parlez, dit Chomsky, vous mélangez des systèmes. Mais la science ne peut être qu'une science des systèmes dégagés les uns des autres. Vous comprenez ? C'est un peu comme pour la physique, bien entendu. La perception mélange toutes sortes de systèmes. Mais la physique scientifique, elle, ne peut s'établir que si elle sépare les systèmes hétérogènes pour constituer des systèmes homogènes. Vous comprenez ? Voilà la position de Chomsky. La position de Foucault-Lebov, elle consiste à dire, mais il n'a rien compris, Chomsky. Il n'a rien compris du tout. Le problème n'est pas du tout du fait. Bien sûr, on mélange en fait. Mais le problème de droit, c'est, est-ce qu'il y a des systèmes homogènes en droit ? Est-ce qu'il y a des systèmes homogènes ? Est-ce que ça veut dire quelque chose, un système homogène en linguistique ? Et supposez qu'en droit, il n'y ait que des passages, il n'y ait que des variations, qu'il n'y ait que des transversales entre systèmes. À ce moment-là, tout change. À savoir, ce qui a une valeur de droit, ce ne sont plus les propositions, chacune replacée dans le système cohérent et constant, homogène et constant. Ce sera quoi ? Ce qui compte, c'est l'énoncé. Et comment l'énoncé se définit-il par différence avec la proposition ? Tout énoncé est le passage en acte. Le passage en acte d'un système à un autre, par opposition aux propositions qui, elles, appartiennent à tel ou tel système. Les énoncés de Krafft Ebing, c'est les règles d'après lesquelles, c'est l'ensemble des règles d'après lesquelles il ne cesse de passer dans une même phrase d'un segment allemand à un segment latin. Le système, les énoncés du petit noir américain d'Harlem, c'est l'ensemble des règles par lesquelles il ne cesse de passer d'un segment d'anglais standard à un segment black English et inversement. En d'autres termes, les règles d'un énoncé sont des règles de variation. L'énoncé est l'instance linguistique qui comprend les variations, c'est-à-dire les passages d'un système à un autre. Dès lors, l'énoncé s'oppose à la proposition. Et il n'y aura pas d'énoncé s'il n'y a pas de passage d'un système à un autre hétérogène. Ce qui revient à dire, et vous reconnaîtrez là du Foucault, ce qui revient à dire, l'énoncé n'est pas une structure, l'énoncé est une multiplicité. On appellera structure la détermination d'un système homogène en rapport avec ses constantes. On appellera multiplicité l'ensemble des passages et des règles de passage. d'un système à un autre système qui lui est hétérogène. Or, il n'y a pas de système homogène, il n'y a que des passages entre systèmes hétérogènes. Donc, si vous voulez dégager, là c'est très concret, si vous voulez dégager l'énoncé qui correspond à une phrase, voilà ce qu'il faut faire. Non pas chercher les propositions linguistiques qui correspondent à la phrase, mais faire tout autre chose. Déterminer quel passage d'un système à un autre la phrase opère, dans les deux sens, et combien de fois. À ce moment-là, vous aurez un énoncé. Non seulement les énoncés vont par multiplicité, mais chaque énoncé est lui-même une multiplicité. Il n'y a pas de structure, il n'y a que des multiplicités. Voilà, ben ça me suffit pour le premier niveau. Moi, je n'en demande pas plus, je ne sais pas si vous en demandez plus. J'essaierai de dire plus, mais... Ça me paraît déjà quelque chose de très très pratique qui montre à quel point ce qu'il appelle énoncé n'a aucun correspondant au niveau des propositions qu'étudient les linguistes. Une proposition linguistique est par nature définie par son appartenance à un système homogène, définie par des constantes. Un énoncé, c'est exactement le contraire. Donc, nous sommes tous des Kraftebits. Bien que nous ne parlions ni allemand ni latin, car nous ne cesserons pas de passer. Vous me direz, mais dans le cas de Kraftebig, c'est très simple, c'est pour des raisons de pudeur, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien à faire avec le langage. Et c'est bien ce que dirait un linguiste. Mais c'est idiot. Mais c'est complètement idiot. Car les raisons de pudeur, vous pouvez toujours les assigner à l'extérieur du langage, mais c'est aussi des variables de la langue. C'est en tant qu'il parle et c'est en tant qu'il produit des énoncés que Kraftemil les compose avec de l'allemand et du latin. Or, c'est notre cas, tous. On est toujours à cheval sur plusieurs langues. C'est bien, on est tous bilingues. Bien plus, on est multilingues. Simplement, on ne le sait pas. Vous me direz que j'emploie la langue en un sens illégitime. Pas du tout, je l'emploie au sens au plus strict. Système homogène défini par des constantes. Ouf, voilà un premier point, très clair ça. Pas de questions. Deuxième niveau. Et là, c'est évident, il y a le choix à faire, je veux dire. Vous ne pouvez pas maintenir les deux à la fois, vous ne pouvez pas dire sur un certain plan, c'est les linguistes qui ont raison, et sur un autre plan, c'est la multiplicité. Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas maintenir les deux positions. Enfin, si vous croyez aux multiplicités, vous pouvez dire quelque chose. C'est que... Chaque segment, si petit qu'il soit de ce que vous dites, chaque segment linguistique est passage entre des systèmes hétérogènes. Vous ne trouverez jamais un segment, quel qu'il soit, qui n'appartienne qu'à un système. Donc, si vous voulez, la théorie des multiplicités, il me semble, s'oppose radicalement en ce sens au structuralisme. Et Foucault a raison complètement de dire déjà dans l'archéologie du savoir qu'il n'est pas structuraliste. Je crois qu'en effet, il fait partie de ceux qui croient à une doctrine des multiplicités, à une théorie des multiplicités. Or, les multiplicités n'ont rien à voir avec les structures. C'est autre chose. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, c'est des règles de passage entre systèmes hétérogènes. Et pas du tout des règles de formation de systèmes homogènes. Alors vous me direz, pour qu'il y ait des passages entre systèmes hétérogènes, il faut bien qu'il y ait des systèmes dont chacun est homogène. Non, c'est pas vrai. S'il n'y a que des passages entre systèmes hétérogènes, ça veut dire que l'idée d'un système homogène pour son compte est une abstraction. Et non seulement une abstraction, mais une abstraction illégitime. Seul le passage compte. Voilà. D'où deuxième niveau. Eh bien, deuxième niveau, je prends cette fois-ci la phrase. Eh bien, la phrase renvoie à un sujet. Mais le sujet auquel elle renvoie, c'est le sujet d'énonciation. Bizarrement dit, d'ailleurs, d'énonciation. Une phrase à un sujet d'énonciation, qui ne se confond pas avec le sujet d'énoncé. Si je dis le ciel est bleu, le sujet d'énoncé, c'est le ciel. Et c'est pas le sujet d'énonciation. Qu'est-ce que le sujet d'énonciation de la phrase ? C'est la phrase en tant qu'elle renvoie à une personne grammaticale. Qu'est-ce qu'une personne grammaticale ? La personne grammaticale, c'est je. Je est le sujet d'énonciation de la phrase. N'importe quel je, non. Il y a des je qui ne sont qu'en apparence personnes grammaticales. Si je dis je me promène, il n'y a pas de différence de nature entre la phrase je me promène et la phrase il se promène. Dans un cas, il est le sujet d'énoncé, dans l'autre cas, je est le sujet d'énoncé. Donc, dans la phrase « je me promène », je n'est pas sujet d'énonciation, il est uniquement sujet d'énoncé, interchangeable avec il. Voilà. En revanche, je dis, je le jure, cette fois-ci, le « je » n'est pas du type « je me promène ». Pourquoi ? Parce que je ne me promène pas en disant « je me promène ». Je peux me promener et dire « je me promène », mais ce n'est pas la même chose. Tandis que quand je dis « je jure en disant « je le jure ». Ça, c'est le sujet d'énonciation. La vraie personne linguistique. Alors, bon, c'est la vraie personne linguistique, c'est la première personne. Qu'est-ce que c'est ce « je » ? Vraie personne linguistique. C'est ce qu'on appellera, c'est ce que les linguistes appellent, un sui référentiel. Ou, si vous préférez, un embrayeur. Comme on dit, il fait commencer le discours. Quelle est sa propriété très bizarre ? C'est que ce « je », sujet d'énonciation, ne désigne ni une personne ni un concept, ni quelque chose, plutôt, ni quelque chose, ni un concept. Ni quelqu'un, ni un concept. Qu'est-ce qu'il désigne? Il désigne uniquement celui qui le dit. Ai-je celui qui dit je? Ai-je celui qui le dit? C'est ça la formule du suis référentiel. Fais commencer le discours. En d'autres termes, la phrase trouve dans la première personne le sujet d'énonciation par laquelle ou auquel elle se réfère. Ce sujet d'énonciation, c'est le « je » comme première personne, irréductible à la troisième personne. Irréductible à la troisième personne, le « je » de « je me promène » est au contraire parfaitement réductible à la troisième personne. Ce que je viens de résumer, très très sommairement, c'est une théorie célèbre, en tout cas en France, que vous trouvez partout, mais je l'ai résumé particulièrement sous le point de vue de Benveniste. Problème de linguistique générale. Puisque ceux d'entre vous qui ont fait de la linguistique ont reconnu dans ce que je racontais un thème très proche de ce que les Anglais et les Américains ont appelé les actes de parole.